Bonjour à tous. Lancer le débat. Salut Marlène. Hello Sylvia. God bless you. And I guess there are three other person, but I don't see the names. So be blessed, all of you. Bonjour Chanel. Voilà, donc il est 8h21. Prenez le temps de vous saluer les uns les autres en ce début de semaine qui se veut ensoleillé. Encore un peu frisquet ce matin, mais il semble que les choses vont s'améliorer à travers la journée et puis les prochaines journées sont aussi très belles de ce qu'on prévoit. Salut la frangine. Hello David. God bless you, Pastor. Hope you had a good weekend in the nice region of Gatineau. Bonjour Annie. Dieu te bénisse. Bonjour Marie-Huguette. Dieu te bénisse. J'ai la gorge qui chatouille. Bonjour Maggie, Dieu vous bénisse. Cette semaine, petit spécial, on continue avec la thématique de la prédication d'hier et on va développer la thématique de l'amour selon la pensée de Dieu, en étudiant les caractéristiques que Paul nous en dresse dans 1 Corinthiens chapitre 13. Bonjour Emmanuel, Dieu te bénisse. Bonjour Rachel, sois bénie. Hermana Susana, Dieu la bendiga. Yeah, it's summer. You won. It's summer. But in less than 200 days, it will be officially winter back. So I'm counting the days. Just something kind of 190 days to bear the heat, and then we'll be back into the wonderland of winter. Bonjour à mon père, bonjour Denise, bonjour à Gérard et bonjour à Françoise si elle est connectée avec vous. Alors comme je disais cette semaine, je continue donc la thématique entreprise hier lors de la prédication du matin et on va étudier donc dans 1 Corinthiens chapitre 13 du verset 4 au verset 8 ce que Paul nous disait par rapport à l'amour. On va essayer de voir non seulement ce que la première lecture de surface nous donne sur l'utilisation du vocabulaire, mais aussi on va essayer de regarder un peu plus profondément ce que ça représente pour nous tous. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, lors de la prédication, on vous invite vraiment à jeter un œil sur l'assemblée d'hier. Comment je décrirais ça? Un temps émotif. En tout cas, pour le prédicateur, c'était assez, C'était assez émotif, mais je crois que c'était important d'aborder ce que nous avons abordé. Donc, on vous invite à aller jeter un coup d'œil à la prédication d'hier. Vous l'avez toujours sur les disponible sur les différentes plateformes de l'Église, que ce soit la page Facebook que vous utilisez actuellement, donc la mienne, celle de l'Église en tant que telle. Vous avez aussi la page Internet de l'Église sur laquelle toutes les prédications passées sont disponibles. Mais jetez un coup d'œil à celle d'hier matin. Je crois que c'est bénissant. Bonjour Leïka, Dieu te bénisse. La jeune fille a un prénom merveilleux. J'aime la sonorité de ton prénom. La première fois où on s'est vu, je te l'ai dit et je te le répète. Je te le rappelle ou te le répète encore ce matin. Leïka est un très très beau prénom. Mais je ne savais pas que tu l'écrivais ainsi. Je le prononçais bien, mais si j'avais eu à l'écrire, c'est pas comme ça que j'aurais eu comme idée de l'écrire. Mais ouais, c'est intéressant. Que Dieu te bénisse, Leïka. Qu'il bénisse Gaël aussi. Tu lui transmets mes salutations, s'il te plaît. Denise, bonjour, Dieu vous bénisse. Jane, Dieu te bénisse. Le bonjour à Sydney. Hermana Flori, hermano Luis, Dieu le bendiga. Dieu les bendiga. Merci, Jane. Bonjour, Nicole. Dieu te bénisse. Oui. Eh bien, ouais, de beaux souvenirs, effectivement. Sois béni. Bonjour Myriam, Dieu vous bénisse. Bonjour à votre époux. Bonjour Guy, Dieu te bénisse. Allô Marcella, Dieu te bénisse. Il n'y a pas de quoi, les gars. Encore 2-3 minutes. En fait, 3 minutes. Il est simplement 27. Donc, prenez le temps de vous saluer. Notre dirigeant jeunesse vient de se connecter. Bonjour Samy, Dieu te bénisse. Bonjour Louise, bonjour Michel, Dieu vous bénisse tous deux. Bonjour Daniel, sois béni. Petit message à Samy, il devrait apprécier grandement la thématique de la semaine. C'est peut-être pour ça qu'il est branché ce matin. Non, non, c'est pas vrai. Mais il va aimer la thématique de la semaine. Notre Samy, si vous ne le savez pas, mais est un grand romantique depuis toujours. Et la thématique de l'amour de Dieu a toujours été très, très importante pour son cœur depuis de nombreuses années. Donc, je pense qu'il va apprécier les exhortations de cette semaine sur la thématique, effectivement, de l'amour selon les principes de Dieu. Bonjour, sœur Samek, Dieu vous bénisse. Ah, vous me réjouissez, Samek. Vous me réjouissez. Vous me réjouissez beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Thérèse, Dieu te bénisse. Bonjour Didier, Dieu te bénisse. Vous avez encore 1 ou 2 minutes pour aller chercher votre café s'il est prêt. Le mien est là. Ouais, comme on me dit souvent, je vais le boire simplement à la fin. Je le fais très, très, très chaud pour qu'à la toute fin, il soit encore pas tiède, un peu plus que tiède. Habituellement, j'aime mon café très, très chaud. Mais je le garde là à côté simplement si je toussote pendant l'exhortation. Ça me permet de m'hydrater un peu. Mais sinon, voilà. Habituellement, dans une prédication, je bois très peu. Je ne sais pas ce que vous avez remarqué, mais je ne sais pas quand m'arrêter. Même si j'ai un traducteur, je ne sais pas vraiment quand m'arrêter entre deux phrases pour boire. Il y en a qui le font tellement bien. Le pasteur André est fort là-dedans. Il boit pendant ses enseignements, puis il le fait au bon moment. Le pasteur Fontalvo le faisait avec justesse aussi. Moi, je sais jamais quand je dois m'arrêter. Fait que habituellement, je bois au début et je bois à la fin. Et ou quand je commence à tousser ou à m'étouffer, mais sinon, pas capable de boire pendant une prédication. Donc, vous avez encore 1 minute pour aller chercher votre café. Bonjour à Jocelyne, bonjour à Jacques, le frère Jacques Hilaire. Bonjour à EAJCDD. Et ça veut dire bonjour à Jimmy, à Danica et aux enfants. Bonjour Milly, Dieu te bénisse. Donc on va prier, puis après ça, je vous donne les pistes pour la semaine. J'en ai déjà donné plusieurs, je vais peut-être les répéter aussi. Mais on va prier et après ça, donc on va débuter. Alors Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cette journée qui débute, pour cette semaine qui démarre, et quel privilège nous avons, non seulement d'avoir conclu de façon magistrale la semaine qui s'est achevée avec ta présence et en te célébrant et en te rendant un culte que nous croyons avoir été agréable pour toi, mais Seigneur, quel aussi privilège merveilleux de pouvoir débuter cette semaine en plongeant nos regards dans ta parole et en sachant que cette parole est encore une source de vie, une source d'instruction pour nous. Alors nous prions, Seigneur, que tu déverses sur nous ta grâce, que tu ouvres notre entendement et nos pensées à ta parole, et que tu puisses, Seigneur, pleinement nous rassasier et nous abreuver. Tu sais ce dont nous avons besoin. Alors nous te demandons, Seigneur, parle et ne retiens point. Et que que toute la gloire, que tout l'honneur, que toute la puissance, que toute la magnificence que te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous ne voulons en rien te voler quoi que ce soit dans l'honneur qui t'est dû. Nous voulons simplement avoir cette grâce et ce privilège d'être assis à tes pieds et de recevoir ta parole. Alors bénis ma sœur, bénis mon frère et préserve-nous et instruis-nous et nourris-nous durant cette semaine en commençant par aujourd'hui. Nous t'avons prié en ton nom Jésus. Amen. Alors, comme je le disais un peu plus tôt, aux premiers arrivés, aujourd'hui nous allons débuter, ou alors, en fait on va continuer la thématique d'hier. Pour ceux qui n'étaient pas branchés, connectés, ou ceux qui n'ont pas vu la prédication d'hier, je crois sincèrement que c'est important que vous puissiez visionner la prédication d'hier, qui est toujours disponible sur toutes les plateformes Internet de l'Église, mais vraiment important. Pas que en ratant la prédication d'hier, vous ne saisirez pas l'enseignement de cette semaine, parce que ça peut être pris de façon indépendante l'un de l'autre, mais je crois effectivement qu'hier, il y a eu un échange qui était important, très émotif, qui a été émotionnellement ou émotivement et puis physiquement demandant pour moi, mais je suis tellement reconnaissant à Dieu d'avoir pu partager ce qu'on a partagé hier et d'avoir été humblement un canal par lequel il s'est adressé à son peuple. Alors on vous invite vraiment à aller visionner la prédication d'hier et l'assemblée d'hier, et d'être béni ainsi. Et aujourd'hui, donc, on va continuer avec la question de l'amour comme une voie par excellence. Cette formule-là est tirée de 1 Corinthiens au chapitre 12, le verset 31, qui nous dit « Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Et cette voie par excellence, lorsqu'on regarde la suite du texte, donc le chapitre 13, on se rend compte que cette voie par excellence est l'amour. Et je crois que aucun d'entre nous ne peut pleinement et adéquatement définir ce qu'est l'amour. Parce que la Bible nous dit que Dieu est amour. Alors, être capable de définir clairement et précisément ce qu'est l'amour, ça serait être capable de contenir Dieu dans des mots. Et vous savez, bon, j'ai étudié en lettres françaises et en littérature, et les mots sont très importants pour moi. J'aime les étudier, j'aime en sortir le sens profond, en sortir les différentes connotations qu'on peut avoir sur un même mot. Et je suis d'avis que lorsqu'on maîtrise par le vocabulaire un sujet, on maîtrise le sujet en soi. Et je me crois incapable, et je crois incapable tout homme, de contenir Dieu à travers ces mots. On essaie de façon la plus aléatoire, avec tous nos efforts, d'approcher d'une définition de ce qu'est Dieu, en sachant que nos mots sont quand même trop faibles et bien inadéquats pour faire l'ouvrage. Toutefois, la parole de Dieu est un texte. La Bible est une association de mots pour lesquels on a des interprétations, des dictionnaires, on a des connotations qui sont données par rapport à plusieurs textes qui nous permettent d'avoir une notion un peu plus élargie par rapport à Dieu. Et cette semaine, l'exercice qu'on va faire, c'est essayer de saisir ce qu'est l'amour. Puisque nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, puisque ça fait la base même de la foi chrétienne, et puisque ça définit en même temps Dieu, alors on va essayer d'avoir cette semaine un peu de clarté quant à l'amour. Et le texte qui sera pour nous la base de notre méditation se trouve effectivement dans ce chapitre de l'amour, donc 1 Corinthiens au chapitre 13, mais on va étudier ces différentes caractéristiques qu'on a simplement survolées hier pendant la prédication, parce que je savais que cette semaine, on prendrait le temps pour les étudier. Donc, je voulais pas aller en détail de ce que représentait chacun de ces textes, donc ou de ces mots. Donc, j'ai un appel téléphonique, donc mon écran vient de disparaître, ça va bientôt passer. C'est probablement l'hôpital qui m'appelle pour un rendez-vous que j'ai plus tard cette semaine. Donc, je vais lire pour vous le texte qui nous sert de méditation, qui est dans 1 Corinthiens au chapitre 13, du verset 4 au verset 7, et je vais le lire dans deux versions. Je vais le lire dans la version Louis II, qui est la version courante, et après ça, je vais le lire dans la version du Semeur, qui était l'autre texte parallèle que j'utilisais hier. Donc, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, dans la version Louis II, la charité, et quand on parle de charité ici, c'est un autre mot pour l'amour. Donc, la charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Et la première phrase du dernier verset, du verset 8, la charité ne périt jamais. Alors voici ce que la version du Semeur nous dit. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Ce qui est intéressant en prenant des textes, un même texte dans différentes versions, c'est que certaines versions ont un langage, un niveau de langue qui est plus actuel, plus contemporain, donc pour lequel les connotations, les sentiments qui sont prodigués par la lecture nous sont plus communs. Alors que dans un texte comme la version Louis II, et en anglais, ça serait un peu la King James, ou en espagnol, la Reina Valera. Très souvent, le texte est dans une langue qu'on n'utilise plus nécessairement à tous les jours. Donc, il y a certains mots qui sont lourds au niveau de l'orthographe ou du vocabulaire, mais pour lequel on a perdu un peu la notion et la compréhension de ce que ça pouvait représenter. Alors, lire une Bible dans différentes versions est un exercice que je fais en fait lorsque je prépare tous mes enseignements. J'ai tout le temps ce temps-là où je vais relire les versets principaux dans 3, 4, 5, 6 versions en français et je vais faire le même exercice dans les langues que je peux comprendre. Donc, je vais prendre quelques versions en anglais. Quelques versions en espagnol, je vais prendre ma Bible en créole que je vais aussi relire parce que le créole, pour ceux qui l'ont déjà étudié un peu, c'est une langue qui est assez imagée. Donc souvent, il y a des sentiments qui sont associés aux mots qui nous permettent de mieux saisir justement le texte qui est partagé. Donc je vais faire cet exercice-là, est-ce que c'est ce que j'ai fait et c'est ce qu'on va faire au moins avec deux versions cette semaine. Et de surcroît à ça, on va même aller dans la racine grecque des mots qui vont nous donner une meilleure compréhension de ce que ça peut représenter. Alors le texte pour nous ce matin, c'est le début du verset 4 qui nous dit que l'amour est patient et l'amour est plein de bonté. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté. Alors, permettez-moi que j'agrandisse un peu mon écran. Voilà. Alors, le terme patient, et si on veut faire tout d'abord une lecture de surface, la Bible peut se lire de surface, et je crois que même les mots qui sont utilisés en français, qu'on peut approfondir avec une étude adéquate, les mots qu'on lirait en français sont tout à fait percutants et tout à fait appropriés, déjà pour une compréhension de ce que Dieu a pour nous, et si on applique tout simplement la première lecture de surface, ben déjà nos vies seraient plus agréables aux yeux de Dieu et notre façon d'aimer serait tout à fait acceptable aux yeux du Seigneur. Donc on nous dit l'amour est patient. Donc patient veut dire quelqu'un qui est capable d'attendre. Donc l'amour est capable d'attendre. Et l'amour ne précipite pas les choses. L'amour ne se frustre pas parce que les choses tardent à venir, parce que les gens autour de nous tardent dans leur action ou dans leur démonstration ou dans leur réponse par rapport à nous. L'amour sait attendre. Et l'amour est plein de bonté. Donc l'amour, oui, est gentil. Oui, l'amour est tourné vers autrui. Mais parlons des deux termes dans la langue grecque. L'amour est patient, patience, dans le terme grec, c'est makrotimeo. Donc, pour ceux qui prennent des notes, et je sais que plusieurs d'entre vous le font, c'est M-A-K-R-O-T-H-Y-M-E-O. Je répète, makrotimeo, ou makrotimeo, si j'y mets un peu d'accent, M-A-K-R-O-T-H-Y-M-E-O. T-H-Y-M-E-O. Et vous savez que les mots grecs sont souvent composés de ce qu'on appelle un préfixe et un suffixe. Donc une première partie en début de mot et une conclusion ou une deuxième partie, le préfixe en conclusion du mot. Et ici, effectivement, ce mot est fait de deux composantes, macro et thyméo. Macro qui veut dire grand. Quand on parle de macroéconomie, on parle de l'économie mondiale ou d'une économie qui n'est pas le budget d'un individu, mais qui prend en compte des notions qui passent les pourtours du budget, des finances d'un simple individu. Macro veut dire énorme, veut dire très grand comparativement à micro, qui veut dire tout petit. On a souvent cette expression faire de la macro-gestion ou de la micro-gestion. Ceux qui sont dans les ressources humaines, ceux qui sont dans le fait de gérer des équipes, on peut leur dire vous faites de la macro-gestion ou de la micro-gestion. Et en général, la macro-gestion est une bonne chose parce que on regarde les grandes lignes et on fait confiance à l'équipe qui travaille pour nous, comme quoi elle va gérer l'ensemble des opérations. Et nous, on donne simplement les grandes lignes en regardant si les résultats globaux sont atteints. Mais quelqu'un qui va faire de la micro-gestion, donc il va rentrer dans les petits détails du train-train de tous les jours en demandant mais quelle marque de crayon tu as utilisé pour signer? Est-ce que c'était un crayon noir, un crayon bleu? Est-ce que c'était un Bic? Est-ce que c'était un Gillette ou un quoi que ce soit? Il va vouloir la marque. Et c'est pas nécessairement utile ou ça sert pas nécessairement pour le résultat final. Mais macro, simplement vous rappelez que donc ça veut dire grand. Female veut dire non seulement le cœur, et quand on parle de cœur, on ne parle pas du cœur cardia, donc qui est le siège de la vie, qui est le battement du cœur. C'est pas de ça quand on parle de cœur ici. Female, contrairement à cardia, female veut dire le cœur, le siège des émotions, veut dire l'émotivité de quelqu'un, ou un autre terme aussi, l'affectivité de quelqu'un. Quelqu'un qui est capable d'être affectionné. La capacité du cœur de quelqu'un de ressentir de bonnes choses envers les autres. Donc, si on reprend le terme grec, macrothyméo, on parle de quelqu'un qui est endurant, quelqu'un qui est persévérant, donc dans la notion du temps qui avance, du temps de stagnation ou d'arrêt, où on attend une réponse de devant nous. Mais on parle aussi de quelqu'un qui est capable de supporter l'offense et les blessures. Quelqu'un qui supporte l'offense et les blessures, quelqu'un qui est lent à la vengeance ou aux représailles. En fait, que ce soit le terme patient ou le terme bonté, une des choses importantes qui est à saisir ce matin, c'est que l'amour qui est patient, il est patient envers les gens qui sont autour. L'amour qui est rempli de bonté est plein de bonté envers les gens qui sont autour. À la base, l'amour dans le concept de Dieu n'est jamais pour sa propre personne. Et ça, il faut que ce soit très clair, parce que ça va à l'encontre d'un espèce de mouvement de pensée qui est assez répandu aujourd'hui, où on dit tu ne peux pas aimer les autres à moins que tu ne t'aimes en premier. Tu ne peux pas faire du bien aux autres avant que tu ne t'aimes à toi, parce que l'amour que tu vas avoir pour les autres va être déficient, va être marqué par le manque d'amour que tu as envers toi-même. C'est totalement pas biblique. Ce n'est tout simplement pas biblique. La base même, et j'ai eu l'occasion de vous le dire à plusieurs reprises à travers les dernières semaines, la base même de la chrétienté est l'amour manifesté au profit des autres et au détriment de nous-mêmes. La base de l'amour chrétien, c'est Jésus qui meurt à la croix. Et on s'entend, Jésus n'a pas pris soin de lui afin de prendre soin des autres. Jésus a été à même de capituler sa propre vie, de livrer sa propre vie, de donner sa propre vie en sacrifice pour le bien des autres, mais lui en a rien tiré. Il n'a pas pris soin de lui d'abord en disant, mais maintenant que j'ai bien pris soin de moi, je vais prendre soin des autres. Non, la pensée chrétienne, la pensée divine de l'amour est tout le temps vers l'extérieur, émane de nous vers l'extérieur. Et On va me demander, bien sûr, à la fin de la semaine, mais qu'est-ce que ça nous rapporte d'aimer? Ben, l'amour n'est pas supposé te rapporter quelque chose. L'amour est pas pour un profit personnel. L'amour, c'est se donner pour autrui. Et c'est là où plusieurs personnes font échec et là où plusieurs personnes font erreur. Quant à l'amour, ils pensent que ça doit être du donnant-donnant. L'amour, je donne et si je reçois, tant mieux. Mais si je ne reçois pas, j'ai à donner. L'amour chrétien, c'est je donne en n'attendant pas de retour. Mais l'amour humain, l'amour qui est attentionné ou l'amour qui est en espérant quelque chose en retour, c'est pas l'amour de Dieu. C'est l'amour très faillible et très déficient qui est le nôtre en tant que pécheur, en tant que homme égoïste et femme égoïste que nous sommes et égocentrés que nous sommes devenus en raison du péché. Donc, et la notion de l'amour, si on pense dans la pensée chrétienne, c'est Jésus va dire « aimez-vous les uns les autres ». Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, le peuple de Dieu que nous constituons, on aime énormément, mais de toute manière, parce qu'on est partie prenante du peuple de Dieu, on est aussi entouré de gens qui devraient nous aimer. Donc, dans la pensée de Dieu, si moi je suis en train d'aimer, ben de toute manière, je suis entouré de gens aussi autour de moi qui vont m'aimer. Et voilà pourquoi on n'est pas obligé de s'attendre à quelque chose, parce que logiquement, faisant partie du corps de Christ, faisant partie du peuple de Dieu, je donne et ceux qui sont autour de moi ont aussi cette mission et cet appel à donner. Donc, revenons à Macrothiméo. Qui peut attendre, mais qui peut attendre pourquoi? Ben, qui peut attendre pour le bien d'autrui ou qui peut attendre au profit de l'autre. Et c'est probablement assez difficile pour plusieurs qui sont de nature impatiente. Il y a des gens qui trépinent après 30 secondes. Il y a même des gens qui ne sont pas encore arrivés à l'heure juste où le rendez-vous doit avoir lieu. Mais si la personne devant qui doit les recevoir n'est pas prête 5, 10, 15, 20 minutes, une demi-heure avant, ben on commence à s'emporter et on manque de patience. La patience ici, c'est qu'il peut attendre, mais pas j'attends pas pour mon profit, j'attends tout simplement parce que c'est bien pour l'autre. J'attends au profit de l'autre. Et on parlait aussi qu'il supporte l'offense, mais c'est pas supporter l'offense simplement pour être quelqu'un qui fait preuve d'ascétisme. L'ascétisme, c'était cette croyance religieuse qu'on va voir personnifiée aussi par certaines pratiques qu'il y avait dans l'Église traditionnelle où les gens avaient une espèce de fouet, de martinet et qui se frappaient dessus. Et cette douleur qu'ils enduraient était, croyait-il, agréable à Dieu. Et plus nous souffrions, plus on était approuvé de Dieu. Donc ici, ça serait souffrir, mais pour mon profit, souffrir pour que Dieu m'accepte, souffrir pour que j'aie la bénédiction de Dieu. Alors qu'ici, lorsqu'on parle, qu'il supporte l'offense, qu'il supporte les blessures, mais c'est je supporte l'offense pour le bien des autres. Je supporte l'offense pour le bien de l'offenseur ou je supporte l'offense pour le bien des personnes pour qui je sers d'intercesseur. Hier, à la fin de la prédication, j'ai eu l'occasion de mentionner le fait de ce verset dans l'Ancien Testament où le Seigneur se parle à un prophète et il dit « Regarde, je cherche un homme qui élève un mur et qui se tienne dans le trou qui existe dans le mur, donc à la brèche, et qu'il se tienne devant moi en faveur du pays, afin que je ne déverse pas ma colère sur le pays. » C'est comme si le peuple d'Israël est arrivé dans un moment où ils doivent être réprimandés de Dieu, où ils doivent être corrigés par Dieu de par les actions inadéquates qu'ils ont posées en raison des péchés, des iniquités qui ont été les leurs. Et le Seigneur dit, j'aimerais tellement qu'il y ait un homme qui soit là capable de se tenir entre moi et le peuple en intercédant pour le peuple. Et en se mettant à la brèche, et ça veut dire quoi se mettre à la brèche? Ça veut dire qu'il y a un trou dans le mur et qu'à travers ce trou, Dieu va déverser sa colère. Mais que la colère va être bloquée par l'homme qui se tient dans cette brèche, dans ce trou. Ça veut dire quelqu'un qui est prêt à se porter à la défense du peuple et à subir les affres qui viennent avec la punition pour le peuple et en faveur du peuple. Un peu ce que Jésus a fait pour nous. En fait, un peu beaucoup ce que Jésus a fait pour nous. La Bible nous dit qu'il a été fait péché à cause de nous, qu'il a pris nos péchés sur ses épaules, nos iniquités sur lui, alors que Jésus n'avait jamais rien commis de mal, alors que Jésus n'avait jamais péché, alors que Jésus n'avait commis aucune iniquité, mais il a pris l'ensemble des péchés de toute l'histoire de l'humanité, les a portés sur ses épaules, a été élevé dans cette brèche, a été élevé pour payer le prix de notre jugement, de notre condamnation, et le prix pour notre rachat et pour notre grâce. Mais il y a quelqu'un qui a subi des torts à cause de nous et pour notre profit. Alors voilà ce qu'on veut dire par être patient, donc qui supporte l'offense pour le bien de l'offenseur et qui supporte sans broncher dans le temps qui est nécessaire à l'autre. Ça veut dire que j'accepte de subir ce qui est moins agréable, j'accepte ce qui me plaît un peu moins, tout le temps que ça sera nécessaire et tout le temps que l'autre aura besoin. Et je comprends que ça va à l'encontre des pensées de l'homme, mais peut-être parce que l'homme tout simplement s'est distancié de ce qu'était la pensée de Dieu concernant l'amour, puisque l'amour que Dieu est et l'amour qu'il a démontré, ça a été de venir sur cette croix pour mourir pour toi et pour moi. Ben, lui a prêché par l'exemple. Il nous a aimés. Et il a accepté de subir ce qu'il n'avait pas à subir pour notre profit, et il l'a fait aussi longtemps que cela était nécessaire. Donc, qui peut attendre pour le bien de l'autre, qui supporte l'offense pour le bien de l'offenseur ou des gens qu'il s'apprête à protéger, et qui supporte sans broncher tout le temps qui est nécessaire, non pas à nous, mais qui est nécessaire à l'autre. Le deuxième terme, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, c'est le terme krestioma, krestioma, et krestioma vient du préfixe cresto. Et cresto, donc on parle du terme bonté bien sûr, donc bonté c'est krestioma, je vous l'appelle Krestioma. Je répète, Krestioma, Krestioma. Et Cresto veut dire dont on fait usage. Quelque chose qui est utile. On se détache de la bonté qui est simplement être gentil et être agréable aux autres. Ici, c'est quelque chose dont on fait usage. Quelque chose qu'on utilise et quelque chose qui est utile. Ça veut dire que la bonté fait en sorte que je sers à quelque chose, voire même que je sers pour quelqu'un. Ça veut dire que je deviens quelque chose qui est utile à l'autre. On n'appelle pas à être bon envers soi-même. Ça, c'est trop facile d'être bon envers soi-même. Voilà pourquoi Jésus va dire, Marie, aimez vos femmes comme vous-même. Il est en train de dire ça parce qu'il dit au mari, regarde, il est bien facile pour toi de t'aimer toi-même. Donc, aime ta femme comme toi, tu es capable de t'aimer toi-même. Au même titre où tu fais attention à toi-même, au même titre où tu prends soin de toi, au même titre où c'est tout à fait naturel de veiller sur toi, mais veille sur ton épouse de la même manière dont il t'est facile de veiller sur toi-même. Donc ici, on est en train de parler qui sert à l'autre, qui sert à autrui, qui est utile à l'autre. Être bon, c'est être doux, être gentil, faire preuve de gentillesse, oui, mais c'est se montrer utile, c'est poser un acte de bienveillance, c'est être bienfaisant pour l'autre. Donc, ça veut dire qu'il fait le bien envers son prochain. Combien de fois les Écritures nous parlent de faire du bien et d'aimer notre prochain, de prendre soin de notre prochain. C'est ça avoir de la bonté. C'est prendre soin des gens qui nous entourent, prendre soin des gens qui nous sont favorables, prendre soin des gens qui nous sont aussi défavorables. Parce que la bonté et l'amour dans la pensée de Dieu va aller jusqu'à « tu aimeras ton ennemi ». Tu aimeras ton ennemi. Ça veut dire que moi, je dois faire preuve de bonté même envers celui qui est considéré comme mon ennemi. Et vous irez voir la prédication d'hier et vous comprendrez jusqu'où vous devez aimer, peu importe le camp dans lequel vous êtes. Donc, qui fait du bien envers son prochain, qui veille au bien de son prochain. Non seulement je pose des actes qui sont agréables et qui font du bien à mon prochain, mais par mes actions, par ma prise de position, je veille aussi à ce que le bien entoure autrui. Hier, je pense que je me suis positionné en faveur de certaines personnes. Je me suis positionné envers une certaine faction de la société et je ne le faisais pas pour moi, je le faisais pour ceux qui nous entourent. Quand Jésus est allé mourir sur la croix, il s'est positionné comme le rédempteur, comme celui qui rachète, comme le sauveur, celui qui sauve, comme celui qui gracie une humanité que nous étions, qui avait besoin d'un sauveur, qui avait besoin d'un rachat. Donc, c'est faire être la source qui sert l'autre, être celui qui est utile à l'autre, être celui qui fait le bien envers son prochain, qui veille au bien d'autrui, mais de surcroît à ça, c'est aussi bienfaisant. La présence d'une personne qui est bienfaisante. Et je ne parle pas de la personne, mais de sa présence. Donc, que ma présence fasse du bien. Et ça, c'est peut-être une prière sur laquelle tu dois t'arrêter aujourd'hui et un questionnement que tu dois te poser. Quand je rentre quelque part, est-ce que ma simple présence peut faire du bien? La présence de Dieu fait du bien. Donc, logiquement, quand moi je me promène quelque chose, puisque Dieu habite en moi, lorsque je me promène quelque part, ben la présence de Dieu devrait m'accompagner et la présence de Dieu devrait faire du bien autour de moi. Est-ce que je vois les gens qui se mettent à grimacer, puis on dirait que tout le monde se met à être stressé lorsque j'arrive quelque part, ou lorsque j'arrive quelque part, ça sécurise les gens, ça calme les gens, ça apaise les gens. Et ça, c'est dans le devoir et dans les capacités de nous tous. Encore faut-il accepter de jouer ce rôle. Encore faut-il accepter que Dieu nous utilise dans ce genre de rôle-là. Il y a des gens qui sont tout fiers d'être vindicatifs, d'être « moi je suis franc, puis je veux te dire la vérité en pleine face », et puis ils sont fiers de pouvoir dire à qui que ce soit, quoi que ce soit, et lui lancer à la figure. Ça, c'est pas être franc, c'est être méchant tout simplement. Ça, c'est pas être direct, ça, c'est simplement être blessant. Tu peux être franc, tu peux être direct, mais avec toute la grâce, avec toute l'onction et avec toute la douceur qui est de mise quand on aime comme Dieu veut qu'on aime. Donc, ce matin, soyons patients et soyons remplis de bonté. Donc, sachons attendre, sachons supporter, sachons persévérer, sans broncher, sachons aussi être utiles à l'autre, sachons veiller au bien de l'autre, sachons travailler au bien et au profit de l'autre, et sachons aussi faire en sorte que notre arrivée dans un lieu propage le bien-être. Que lorsque je me rends quelque part, que les gens autour de moi bénéficient de ma seule présence comme une source de paix, une source d'apaisement, une source de joie. C'est possible pour toi, tu es appelé à faire cela. C'est possible pour moi, je suis aussi appelé à faire cela. Alors on va prier et après ça on va saluer les personnes qui se sont jointes à nous. Merci Seigneur pour ce message, merci pour cette parole, merci pour toutes les personnes qui sont connectées ce matin. Et oui Seigneur, dès aujourd'hui, tu nous lances des défis quant à comment être un bon disciple, comment être un bon représentant de ton royaume, comment être un bon diffuseur de ta grâce, de ton amour, en étant patient et en étant rempli de bonté. Donc en sachant supporter l'épreuve et l'outrage malgré tout et en ayant une vie qui est vouée à ceux qui nous entourent et non pas axée sur nous-mêmes. Et en étant capable aussi, Seigneur, de faire preuve de grâce, de bonté, de douceur envers l'autre, de veiller au bien de notre prochain, de veiller au bien de ceux qui nous entourent, tant ceux qui eux-mêmes répondent d'une façon similaire en veillant à notre bien, que ceux, Seigneur, qui nous sont plus difficiles à aimer, ceux qui nous malmènent par leur attitude, leurs paroles ou leurs actions. Tu ne nous demandes pas de faire exception de personne, comme toi-même, lorsque nous te rejetions, lorsque nous te tournions le dos, tu as quand même fait preuve d'empathie, de douceur, de grâce, d'amour envers nous. Alors je prie aussi, Seigneur, que cette grâce soit accordée à ma sœur et à mon frère, que peu importe où ils se retrouvent, peu importe où ils vont se déplacer, qu'ils soient une source de bien-être, une source de paix, une source de joie pour toutes les personnes qui les croisent. Que ces personnes soient même amenées à dire « Je sais pas ce qui se passe avec toi, mais quand tu arrives, je me sens différemment. Quand tu arrives, je me sens bien. Quand tu arrives, ça me calme. Quand tu arrives, ça me rend heureux et joyeux. » Et qu'on puisse y reconnaître tout simplement le fait que nous habitons l'Esprit de Dieu, permettons à l'Esprit de Dieu de se mouvoir à travers nous. Alors je prie, Seigneur, que ton fils et ta fille puissent expérimenter une telle chose et qu'ils soient favorables à répandre ton amour, à manifester ton amour et à être des canaux tous et chacun pour cet amour. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, je vais saluer quelques personnes. La dernière personne que j'ai saluée tout à l'heure, c'était Milly. Je vais voir si je suis capable de voir d'autres personnes qui se sont connectées à nous. Je sais qu'il y a Ramon, il y a Soraya, il y a Maria Neiva, Andrés, la hermana Teresa, Farley, avec Marie-André, sa maman. Je pense que c'est à peu près tout pour les personnes que je suis capable de voir. Donc, à vous tous, vous avez le défi cette semaine d'aimer. Et à chaque jour, vous allez avoir une nouvelle facette ou deux nouvelles facettes sur comment exprimer véritablement l'amour de Dieu autour de vous. Je répète parce que je crois que c'est important. Ceux qui n'ont pas assisté à l'assemblée d'hier, allez voir la prédication d'hier matin, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre depuis 2, 3, 4 semaines. C'est pas, en fait, ça existe depuis plus longtemps que ça, mais on dirait que ça ressurgit davantage, ça bouillonne davantage depuis 2, 3, 4 semaines. Je pense que la prédication d'hier était de Dieu et était tout à fait adaptée. Alors, je vous invite vraiment à aller voir la prédication d'hier, ça va vous challenger, ça va vous mettre au défi, mais ça va vous permettre, au même titre où nous continuons suite à la prédication, cette thématique de l'amour, ça va nous permettre d'être les chrétiens que Dieu veut que nous soyons et être l'Église qu'il veut que nous soyons avec le déconfinement qui va progresser et avec cette nouvelle époque qui sera la nôtre après la COVID-19. Donc sur ce, que Dieu vous bénisse. Passez tous une très très bonne journée. Aimez, 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 aimez. Que Dieu vous bénisse.